Et les matins débutent avec le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un vote historique au Royaume-Uni. Hier, le Premier ministre Boris Johnson a été mis en minorité au Parlement. L'opposition, mais aussi 21 députés de son propre camp, ont pris le contrôle de l'agenda parlementaire. Ils souhaitent repousser la date du Brexit, un scénario qui rend probable la tenue d'élections anticipées d'ici le mois d'octobre.
Le procès de l'arnaque des Cum-Ex débute en Allemagne aujourd'hui. Pendant 15 ans, plusieurs milliards de dollars ont été détournés aux services fiscaux de plusieurs pays européens. L'audience doit permettre de comprendre le rôle exact joué par plusieurs banques dans ce montage.
En France, il y aura deux marcheurs à la conquête de Paris. Benjamin Griveaux, déjà adoubé par la majorité, et Cédric Villani. Le député de l'Essonne va officialiser sa candidature aujourd'hui. Une position qui embarrasse La République En Marche. Et dans 10 minutes, Guillaume, la question du jour.
Alzheimer, la maladie est-elle liée à une infection des gencives? On posera la question à Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille.
C'est un nouveau chapitre à rebondissement dans cette histoire quasi sans fin du Brexit. Hier, au Parlement britannique, 21 députés conservateurs ont rejoint l'opposition à Boris Johnson lors d'un vote crucial. Le Premier ministre a donc perdu la main sur l'agenda parlementaire, un préalable au dépôt d'un projet de loi pour reporter la date du Brexit. Ces députés veulent à tout prix reculer le divorce de lui avec l'union sans accord. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Londres, Antoine, ce vote est donc un revers majeur pour Boris Johnson.
Oui, c'est une défaite d'autant plus cuisante qu'elle met en lumière les divisions qui agitent le Parti conservateur. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce vote perdu par le gouvernement, c'est le départ de 21 députés rebelles que Boris Johnson a pourtant menacé d'exclusion et qui prennent le risque de s'opposer à la majorité. Parmi eux, des figures importantes du parti, Kenneth Clark, le doyen des conservateurs, ancien ministre des Finances, tout comme Philippe Hammond, qui lui aussi rejoint les frondeurs, et comme Nicholas Soames, le petit-fils de Churchill, 71 ans, et qui siège depuis 1983 au Parlement. Ils vont probablement aller s'asseoir sur les bancs de l'opposition, laissant Boris Johnson sans majorité pour gouverner. Pour contre-attaquer, le Premier ministre explique qu'il est victime d'un complot du Parlement qui l'empêche de continuer à négocier avec Bruxelles et promet des élections anticipées.
Alors, ces élections, Antoine, est-ce que Boris Johnson a le pouvoir de les déclencher?
Alors oui, mais pas tout seul. Pour déclencher un scrutin et dissoudre le Parlement, il lui faut le soutien des deux tiers des députés. Et hier soir, les libéraux démocrates, comme les travaillistes, ont annoncé qu'ils voulaient, avant toute organisation de scrutin, l'assurance qu'il n'y aurait pas de sortie sans accord de l'Union européenne. Ce sera donc très compliqué. Deux solutions s'offrent à Boris Johnson, soit il s'entête et reste un Premier ministre sans pouvoir, soit il considère que la décision des députés d'aller contre l'avis du gouvernement équivaut à un vote de défiance, il s'en va et laisse au parti d'opposition 15 jours pour tenter de former un gouvernement temporaire, situation chaotique dans les deux cas.
Précision signée Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Gouvernement fragilisé donc au Royaume-Uni, mais gouvernement adoubé en Italie. Les militants du mouvement 5 étoiles se sont prononcés à 80% hier en faveur d'une coalition gouvernementale avec le Parti démocrate. Un vote négatif aurait signifié la fin du nouveau gouvernement formé par Giuseppe Conte. Aux États-Unis, le mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine n'est pas encore construit, mais le voilà désormais en partie financé. Le Pentagone a débloqué 3,6 milliards de dollars pour bâtir 280 km de ce mur. Des crédits ont été accordés en échange du report de 127 projets de modernisation de locaux militaires. Une décision qui est d'ailleurs très critiquée par le leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. C'est une gifle pour les forces armées qui servent notre pays, a-t-il réagi sur Twitter. Les États-Unis où le géant de la grande distribution Walmart décide de ne plus vendre certains types de munitions, notamment celles qui alimentent les armes automatiques. Une mesure prise après le massacre de 22 personnes dans un hypermarché du Texas le mois dernier. Et ce n'est pas que symbolique, Grégory Phillips, puisque Walmart est l'un des premiers vendeurs d'armes dans le pays.
Le PDG de Walmart, Doug McMillon, annonce dans ce communiqué que son groupe cessera bientôt de vendre des munitions pour les fusils d'assaut semi-automatiques de type AR-15, comme celui utilisé par le tireur Del Paso. Précision, quand les stocks seront épuisés. Même chose pour les munitions destinées aux armes de poing. Enfin, dans les États où il est autorisé de porter un revolver à la ceinture, Walmart va interdire à ses clients de venir faire leurs courses avec une arme à la vue de tous. Dans son communiqué, le patron du numéro 1 mondial de la grande distribution dénonce aussi le statu quo inacceptable sur ce dossier et réclame un renforcement du contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. La NRA, le puissant lobby pro-armes aux États-Unis, a réagi immédiatement en affirmant que Walmart cédait à la pression des élites anti-armes et que les clients iraient désormais vers d'autres magasins qui, à ses yeux, soutiennent plus activement les libertés fondamentales américaines.
Les précisions de Grégory Phillips aux États-Unis pour France Culture, le pays qui attend d'ailleurs toujours le passage de l'ouragan Dorian. Il est désormais rétrogradé en catégorie 2 et progresse lentement vers la côte est. Aux Bahamas, Dorian a fait d'énormes dégâts. Désormais, le bilan est de 7 personnes décédées selon le premier ministre de l'archipel qui s'attend à découvrir d'autres morts une fois la décrue amorcée.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayol. Le procès de deux anciens banquiers d'affaires britanniques s'ouvre aujourd'hui en Allemagne.
Ils sont accusés de fraude fiscale aggravée dans l'affaire dite des Cum-Ex. Plusieurs milliards d'euros ont été détournés de nombreux pays européens, au moins 7 milliards en Allemagne notamment. C'est d'ailleurs un ancien fiscaliste allemand qui est à l'origine de cette arnaque. Mais au-delà de ces deux anciens banquiers qui comparaissent aujourd'hui, Eric Begala, c'est le rôle joué par les établissements bancaires qui sera scruté lors de ce procès.
L'arnaque des Cum-Ex, en deux mots, c'est simple. Il s'agit de transférer très rapidement des paquets d'actions vers plusieurs propriétaires successifs juste au moment du paiement des dividendes sur ces actions. Les services fiscaux prélevant une taxe sur le paiement des dividendes, les propriétaires factices multipliaient ensuite les demandes de remboursement d'un impôt soi-disant injustement perçu. Les services fiscaux allemands, danois, autrichiens, néerlandais ou norvégiens notamment se sont ainsi fait berner pendant 15 ans. On estime que ces services auraient ainsi indûment remboursé à des compagnies financières pour plus de 10 milliards d'euros d'impôts sur les dividendes, des impôts qui n'avaient la plupart du temps jamais été perçus. À ce niveau-là, ce n'est plus de la fraude, c'est de l'escroquerie pure et simple et dans les grandes largeurs. Si on inclut les opérations d'optimisation fiscale de ces mêmes compagnies financières, légales celles-là, c'est un manque à gagner de quelque 55 milliards d'euros qui a fini par plomber le trésor public de ces mêmes pays. Le procès des deux ex-banquiers d'affaires devrait durer jusqu'en janvier. Il doit surtout permettre de comprendre jusqu'à quel point les plus grands noms du secteur bancaire, la Deutsche Bank, BNP Paribas, le Crédit Agricole, Merrill Lynch ou Morgan Stanley se sont retrouvés associés à cette arnaque et pour certains en ont directement profité. Les deux banquiers britanniques ont choisi de coopérer avec le parquet allemand et de révéler les mécanismes liant leur action au service de la Deutsche Bank, notamment pour le trésor public allemand. Il s'agit aussi de récupérer une partie des sommes détournées. Le parquet de Francfort avait pour sa part lancé depuis 2012 une dizaine d'enquêtes basées chacune sur la fraude des Cum-Ex. Près d'un demi-milliard d'euros ont d'ores et déjà été récupérés.
Explication d'Éric Biegala. En France, le ministère des Comptes Publics va supprimer 5800 emplois dans les trois prochaines années. Annonce hier du ministre Gérald Darmanin. Une telle décision est justifiée par la mise en place du prélèvement à la source, mais aussi la suppression de plusieurs petites taxes. On revient en longueur sur ces annonces dans le journal de 8h sur France Culture. La rentrée qui est aussi marquée par la colère à venir des routiers. Les organisations patronales dénoncent plusieurs annonces du gouvernement qui, selon elles, pénalisent la profession de leurs jumets.
Les efforts demandés aux routiers permettent au gouvernement de faire coup double, réaliser des économies et montrer que des progrès sont faits en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais pour les organisations patronales du secteur, l'exécutif se moque d'eux, l'État cherche simplement de l'argent, disent-ils. Au début de l'été, le gouvernement a ainsi annoncé une réduction de leur avantage fiscal sur le gazole, un gain de 140 millions d'euros destiné au financement des infrastructures. Voilà qui s'ajoute à une autre mesure, la fin progressive d'une fiscalité attractive sur le gazole non routier, utilisé notamment par les entreprises de transport frigorifique. Le patronat dénonce aussi la taxation des contrats courts et de moindres allègements de charges. Bref, la coupe est pleine, estime Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l'OTRE qui représente des PME du secteur.
Il y a aujourd'hui de notre part une vraie volonté à dire à ce gouvernement où vous restez sur une ligne dure, sans concertation, et il faudra en assumer les conséquences, ou alors vous acceptez une bonne fois pour toutes de discuter avec nous, de regarder l'ensemble des possibilités, et de revoir votre copie sur un certain nombre de points, et à ce moment-là, tout reste possible. Pour l'instant, le mouvement n'est pas décidé, mais le mécontentement est très fort. Si la ligne du gouvernement ne change pas, il faudra que chacun assume ses responsabilités.
Et les mesures annoncées pèsent à hauteur de 600 millions d'euros en année pleine sur le secteur, selon les organisations patronales, qui rappellent que l'activité est déjà fortement concurrencée par des entreprises européennes.
Anne-Laure Jumet. Le gouvernement a subi un petit remaniement hier, de nouvelles entrées, notamment le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye qui va piloter cette réforme dans les mois à venir. Le député Jean-Baptiste Djebbari est quant à lui nommé secrétaire d'État aux transports auprès de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne. La majorité La République En Marche qui tranche en ce moment les candidatures aux élections municipales et qui doit faire face à une candidature dissidente à Paris puisque le député de l'Essonne Cédric Villani envisage de se présenter face au candidat En Marche déjà investi qui est Benjamin Griveaux. Le mathématicien s'émancipe donc du mode de désignation classique Stéphane Robert, ce qui n'est pas sans poser des problèmes au sein de la majorité.
Comment faire face à la candidature dissidente de Cédric Villani et surtout comment l'amener à renoncer alors que le député mathématicien semble particulièrement déterminé? Pour le moment, Benjamin Griveaux et son entourage n'ont pas vraiment trouvé de réponse à ces questions. L'ex-porte-parole du gouvernement a quand même esquissé un début de riposte dans une lettre adressée aux marcheurs parisiens et mise en ligne lundi, il y a 2 jours. Premièrement, il y fait valoir sa légitimité en tant que candidat officiel de La République En Marche, désigné par la commission d'investiture le 10 juillet, il rappelle que Villani s'était engagé à respecter le choix de cette commission. Ensuite, il met en avant ses soutiens, notamment Mounir Majoubi, qui avant l'été était aux côtés de Villani et qui a récemment rejoint le camp de Benjamin Griveaux. Et puis, il indique qu'il refuse l'exclusion de Cédric Villani, même si les statuts du parti le prévoient en cas de dissidence, et ça, dit-il, afin de ne pas diviser les marcheurs parisiens. Il essaie donc d'apparaître comme celui qui rassemble, laissant entendre que son rival est celui qui divise. Cédric Villani, quant à lui, dénonce la manière dont a été désigné Benjamin Griveaux par la commission d'investiture. La procédure était viciée, explique-t-il, tout était joué à l'avance. Il s'estime donc affranchi de ses engagements et s'en remet au choix des Parisiens. Il y a une vraie carte à jouer, explique son entourage. Vous n'imaginez pas le nombre de soutiens qu'on a reçus. Il y aura donc 2 marcheurs, candidats au municipal à Paris, qui, jusqu'à preuve du contraire, ne marcheront pas à l'unisson.
Explication de Stéphane Robert et tout à l'heure, Frédéric Saïs reviendra sur la candidature de Cédric Villani dans son billet politique. Ce sera à 8h15. Mais en attendant, le temps de ce mercredi, il est plutôt clément sur une grande majeure partie du pays. La pluie arrive toutefois par le nord-ouest. La Normandie subit déjà quelques orages ce matin. Les températures minimales de 8 à 13 degrés en moyenne, Guillaume Hernel.
Merci beaucoup, Maxime Fayol.